www.libradio.org. La station debout.
Alors nous sommes le 15 octobre ici à l'Almacène, c'est en plein cœur des grottes, en compagnie de Christian Georges. Bonjour et merci à vous.
Bonjour.
Merci de prendre du temps puisque vous venez de loin, vous venez de Neuchâtel. Et aujourd'hui on se rend compte parce qu'il y a une actualité autour de la structure que vous représentez, dont on va immédiatement parler, dont l'acronyme est CIIP.
Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin. Vous savez qu'en Suisse, l'école est une prérogative des cantons, chacun s'organise comme il l'entend, mais pour un certain nombre de tâches, d'actions, les cantons ont éprouvé le besoin d'avoir une entité qui coordonne, qui harmonise les choses, et c'est cette conférence qui se dote d'un programme quadriennal et qui travaille par exemple sur l'élaboration de nouveaux moyens d'enseignement, sur la revalorisation du métier d'enseignant ou sur, par exemple, l'éducation aux médias.
Et alors cette entité épouse les frontières linguistiques, puisqu'il y a une partie francophone, avec en l'occurrence une partie italophone également, mais pas germanophone.
C'est bien ça, c'est vraiment un espace latin.
Un espace latin, tout à fait. Alors de qui est-elle composée, cette conférence intercantonale? Qui l'anime d'une certaine manière?
Alors l'assemblée plénière est constituée par les chefs de département. Pour Genève, c'est Anne-Emery Thorasinta et ses homologues, donc chefs du département de l'instruction publique des cantons de Vaud, Neuchâtel, Jura, Berne, Valais, Fribourg.
Et de quel...
J'ai cité Berne francophone. Oui, il y a aussi le canton de Berne.
Et alors, comment est-ce que les interactions ont-elles cours? Puisque, évidemment, vous êtes complètement décentralisé d'une certaine manière. Est-ce qu'il y a est-ce une fédération? Chacun prend un petit peu ses décisions et a le pouvoir d'initiative. Et à un moment donné, y a-t-il des plénières où tout le monde se retrouve pour donner une orientation commune?
Alors, comme je vous l'ai dit, il y a un programme quadriennal qui est donné, qui fixe un cadre. En fait, la CIP, elle est au service des cantons qui se concertent pour obtenir un certain nombre de résultats. Ce résultat, ça peut être par exemple l'élaboration d'un nouveau moyen d'histoire pour les élèves de la 11e, 12e année, mettons. Eh bien, en fonction de cet objectif, il y a des commissions qui se réunissent. Les cantons délèguent un certain nombre de commissaires, de gens qui sont formés pour la tâche donnée. Et puis, le chantier avance petit à petit jusqu'au résultat final.
Ok. Votre actualité, c'est la semaine des médias, 16e édition déjà, qui aura lieu du 25 au 29 novembre, donc c'est sous peu. La thématique de cette année, c'est l'information sans frontières. Alors, voudriez-vous nous en dire quelques mots? 16 ans déjà, ça fait un moment. Et puis peut-être faire une sorte de bilan en nous présentant ce qu'est que cette semaine des médias.
Oui, très volontiers. L'idée au départ, c'était d'organiser un événement phare, un événement avec une grande visibilité qui rappelle aux enseignants l'importance de faire de cette éducation aux médias et à l'information. L'éducation aux médias fait partie du plan d'études intégralement. C'est un chapitre de la formation générale. Le problème en Suisse romande, c'est que cette éducation aux médias ne bénéficie en général pas d'une ouverture à la grille horaire. C'est pas le cas à Genève. Heureusement, en 11e année, il y a de l'éducation aux médias et à l'image. Mais il fallait remobiliser un certain nombre d'enseignants avec cet événement qui a été inspiré de ce qui se fait en France. La semaine de la presse et des médias dans l'école existe depuis 30 ans en France. Et puis, nous, on a commencé en 2004. Alors, l'idée, c'est d'être transgénérationnel et transmédia. Ce n'est pas une semaine de la presse écrite, c'est une semaine de l'ensemble des médias, l'ensemble des canaux d'information. Donc, on prend compte autant les médias traditionnels, la presse écrite, la télévision, la radio, que les médias nouveaux, évidemment, Internet, les réseaux sociaux, les podcasts, tout ça. Le bilan qu'on peut tirer après ces 16 ans, c'est que les enseignants ont vraiment besoin qu'on leur prépare des séquences pédagogiques toutes faites ou qu'on leur propose quelque chose d'un peu exceptionnel via, par exemple, la visite d'un studio, d'une rédaction, la participation à un briefing d'une rédaction, à un atelier déjà tout fait dont ils n'ont pas à se soucier à l'avance. Donc nous calibrons un certain nombre d'activités, il y en aura une quarantaine cette année pour tous les degrés scolaires, et puis ce thème, l'information sans frontières, avec point d'interrogation à la fin, eh ben, il a été repris de la 30e semaine de la presse et des médias dans l'école en France. C'est un thème qu'on aime bien parce qu'il est polysémique. L'information sans frontières, ça veut dire qu'elle est partout, et partout et nulle part. Mmh. Et elle est parfois nichée dans des choses qui ne sont pas de l'information. Si vous prenez certaines vidéos faites par des youtubeurs, c'est du divertissement, mais il se peut qu'il y ait un petit bout d'information dedans, ou que ce soit pour certains une porte d'entrée dans l'information, ou alors vous avez des contenus qui sont très 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 publicitaires alors qu'ils sont censés être de l'information. Donc ça nous intéresse aussi, ce mélange des genres et cette apprentissage nécessaire de trier un peu le bon grain du vrai.
Alors voilà, on va revenir là-dessus, mais avant ça, je voulais encore vous questionner sur les professeurs. Êtes-vous vous-même dans le besoin de les solliciter, de les stimuler, ou est-ce de plus en plus les professeurs qui, à l'observation empiriquement de ce qui se passe autour d'eux, viennent vers vous, vous questionner, vous inviter à aller vers eux? Dans quel sens est-ce que ça va habituellement?
Alors, il y a plusieurs approches. Il y a des gens qui se sentent très à l'aise avec cet univers des médias et de l'information, qui traitent régulièrement de l'actualité en classe. Et il y a des gens qui se sentent pas à l'aise avec ça, qui le font pas du tout ou très exceptionnellement. Notre rôle à nous, ça n'est pas d'intervenir directement en classe, c'est de proposer des ressources ou des rencontres avec des professionnels des médias. Donc ces ressources, il se peut qu'elles soient réalisées par des enseignants eux-mêmes. Ça, c'est ce qu'on apprécie le plus, c'est quand des gens du terrain parlent à leur père, PAIRS, en leur proposant des activités crédibles, réalistes, réalisables dans le cadre qui leur est donné, c'est-à-dire le plus souvent une à deux leçons.
D'accord. On ne l'a pas encore dit, le site internet, c'est www.semainedesmedias.ch. Et là, on y trouve le programme.
Le programme, des conseils, une quarantaine d'activités toutes faites qui sont téléchargeables en PDF, pas besoin de login, c'est en accès libre. Il y a un certain nombre de supports. Et puis en ce moment, il y a surtout, en tout cas jusqu'à fin octobre, il y a toute une liste de prestations offertes par les médias romans qu'il est possible de solliciter via un formulaire en ligne jusqu'à fin octobre.
Donc, c'est-à-dire que jusqu'à fin octobre, n'importe quel professeur qui nous écoute, eh bien, peut aller sur le site, faire son choix, un petit peu à la carte, et puis, eh bien, via le formulaire, vous contacter.
Tout à fait.
Très bien. Alors, justement, le rôle. Quel est le rôle de l'école dans la pratique de la critique du média ou dans la pratique de l'apprentissage de ce qu'est le média?
Eh bien, j'ai envie de recourir à la métaphore du pêcheur. Vous connaissez la parabole qui dit qu'il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher que de lui offrir un poisson. Comme ça, il pourra se nourrir toute sa vie. Mais en matière d'information, c'est un peu la même chose. On peut, à un moment donné, dire, voilà, la bonne information, elle est ici, servez-vous. Mais ce qui est plus utile par rapport à des enfants, à des jeunes en formation, c'est de leur apprendre à devenir rusés, finaux, et à savoir séparer ce qui a de la valeur, ce qui est crédible et ce qui n'en a pas. Et c'est exactement ça, cette fonction de l'école par rapport à l'éducation, aux médias et à l'information.
Est-ce que l'on constate justement dans le temps une dynamique dont on voit que les enfants qui deviennent des enfants de la balle, puisque de plus en plus d'entre eux naissent dans le monde qui nous encercle, que de plus en plus ils ont matière à être critiques par rapport à ça, et qu'assez automatiquement, eh bien, ils sont pour le moins sceptiques, ou en tout cas à l'affût de l'information et de la manière dont on informe?
Alors, à ce stade, moi, je serais très prudent. Je ne voudrais pas tomber dans les généralisations, et j'ai l'impression qu'il y a des pratiques très, très différentes. Des pratiques extrêmement influencées par le milieu familial, le milieu social, le degré d'éducation, le degré d'abonnement à telle ou telle ressource ou tel magazine, journal. Il y a une attitude tout à fait schizophrène et paradoxale chez les jeunes. ils sont de plus en plus friands de divertissement, de réseaux sociaux, et quand on leur pose la question « Est-ce que vous faites confiance à l'info sur les réseaux sociaux ?», ils sont très peu à dire « Oui, oui, c'est fiable ». Ils auraient plutôt tendance à faire confiance encore majoritairement, pour les deux tiers, mettons, aux médias traditionnels, alors même qu'ils les délaissent.
D'accord. Alors, quels sont-ils ces réseaux sociaux, selon vous, qui ont cette influence? Et puis, est-ce l'ennemi, le réseau social, ou est-ce un allié?
Alors, moi, je dirais que c'est les deux. Les réseaux sociaux, c'est l'ennemi en termes de temps consacré, de temps d'attention. Vous savez qu'il y a des ingénieurs extrêmement bien rémunérés dans ces réseaux qui font tout ce qu'il faut pour qu'on passe le plus de temps possible chaque jour sur un réseau social donné, et ils y arrivent fort bien. On se laisse tous piéger, moi le premier. Donc, j'ai envie de dire qu'effectivement, les réseaux sociaux, de ce point de vue, sont l'ennemi, parce qu'on y consacre trop de temps. On a beaucoup de peine à y renoncer ou à décrocher. Et puis, d'un autre côté, j'ai envie de dire que c'est aussi bénéfique, c'est aussi l'allié, puisque c'est forcément la porte d'entrée pour un grand nombre de gens vers l'actualité, vers l'information. Alors, reste à voir ensuite quelle information.
Eh bien voilà, c'est la question qui allait suivre. L'information, qu'est-ce donc? Y a-t-il plusieurs niveaux? Peut-on différencier la culture lorsque c'est une information culturelle, hein, que l'on veut annoncer quelque chose, lorsque l'on étudie un sujet de fond, ou alors est-ce la publicité de l'information également? Qu'en est-il?
Les publicitaires vous diront que la publicité, c'est de l'information. Non, il n'y a pas une information. Ces derniers jours, on a vu Nabila donne naissance à son premier enfant. Je vous pose la question, est-ce que c'est une information?
Je ne sais pas, je ne pense pas. J'aurais envie de vous dire non, mais je ne connais pas la personne.
Voilà. À l'époque, dans les années 50, on disait un chien qui mord un curé, ce n'est pas une information. Un curé qui mord un chien, c'en est une. Eh bien, on est un peu dans ce dilemme-là maintenant. On a énormément de futilité qui prend la première place et qui tend à occulter des choses plus importantes. Mais vous avez aussi un journal comme Le Blick, qui fête ses 60 ans, qui disait « Les autres journaux ont des informations importantes, nous on a des informations intéressantes ». Donc chacun fait sa propre hiérarchie, chacun établit ses propres critères. Le fait est qu'on a énormément de bruit, on a énormément de choses qui nous obstruent les canaux, qui nous obstruent la vue, et on a parfois de la peine à prendre du recul et à voir ce qui est réellement important pour nos vies, pour ce qui va réellement avoir une influence sur notre vie de demain. Si vous prenez l'actualité récente, la mort de Jacques Chirac a occupé l'antenne sur les médias français pendant au bas mot 3 jours. Au même moment, il y a eu cette catastrophe industrielle à Rouen dont on a parlé un peu, mais sans doute pas autant qu'il aurait été nécessaire de le faire au moment donné. Et je crois que ça illustre bien notre époque et notre pléthore d'informations, notre pléthore de canaux. A priori, ça favorise la diversité, mais il y a des moments où tout le monde parle du même événement ou du même fait au même moment, et c'est au détriment, sans doute, d'informations qui seraient plus intéressantes ou plus concernantes pour une partie du public.
D'accord. Alors, qui fabrique cette information, selon vous, et pourquoi la fabrique-t-on, ainsi que pour qui la propose-t-on?
Alors, ce que j'aime bien dans votre question, c'est que vous parlez de fabriquer. Mmh. L'information, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est effectivement quelque chose qui est fabriqué avec un titre, une accroche, des mots forts, des photos qui frappent ou des vidéos qui suscitent l'émotion.
Une grammaire, d'une certaine manière.
Voilà, une grammaire. Et chaque canal a sa propre grammaire. Et parmi les gens qui fabriquent de l'info, eh bien, il n'y a pas que des journalistes. Il y a des journalistes qui sont formés pour ça, pour trier une information, vérifier d'où elle provient, vérifier sa fiabilité, la mettre en forme pour que le public la comprenne, si possible, hein, dans le meilleur des cas. Et puis, vous avez à côté de ça, vous avez des communicants Et ces communicants sont de plus en plus nombreux. Et ces communicants, ils sont payés pour faire passer un certain message au bénéfice de celui qui les paie. Ça peut être une entreprise, ça peut être une institution, ça peut être la FIFA, ça peut être que sais-je. Et là, on est dans un autre registre. Ce n'est pas du journalisme, c'est de la communication, c'est des relations publiques. Et malheureusement, les journalistes manquent de plus en plus de moyens, d'effectifs, sont de moins en moins nombreux dans les rédactions, alors que les communicants, eux, ont souvent champ libre et tout le temps qu'il faut pour calibrer une info dont ils savent qu'elle va être reprise telle qu'elle.
Et c'est-à-dire que,
même si ce n'est pas de l'info.
Absolument. Et c'est-à-dire qu'il y a une sorte de glissement du journalisme et du... On a une profession qui s'appelle community manager qui est de plus en plus patente, qui est de plus en plus prégnante, j'ai l'impression, dans chaque entreprise. Et même, semble-t-il, des employés qui sont encouragés à publier certaines choses qui concernent leur propre travail sur, par exemple, les réseaux sociaux, citons Facebook, et qui deviennent, de cette manière-là, objectivement, eh bien, des communicants également, en tout cas des alliés.
Oui. Alors, la grande affaire du moment, c'est que chacun défend sa marque. Ça peut être une marque de presse, ça peut être une marque commerciale, mais on est vraiment dans cette concurrence effrénée pour obtenir de l'attention d'une part et ensuite défendre sa marque. Et alors chacun s'y met à sa manière, de manière plus ou moins habile ou formée. Vous parlez des community managers, si on traduit en français, ça veut dire animateur de communauté. Alors un animateur de communauté dans un média, c'est celui qui se dit, voyons quelles seront les informations plus intéressantes pour les lecteurs, qu'est-ce que je pourrais faire remonter de nos lecteurs, auditeurs, téléspectateurs vers la rédaction qui donnerait peut-être lieu à une enquête. C'est un sujet ou un article. C'est un métier parfaitement légitime, recevable, et je pense que c'est extrêmement important que ces gens fassent l'interface entre l'audience et la rédaction, qu'on estime parfois trop coupée du terrain. Je pense que ces animateurs de communauté sont également de mieux en mieux formés et se rendent compte que la crédibilité d'un média ne se construit pas uniquement avec du buzz et du clic. Dans un premier temps, on pensait que c'était génial d'avoir rué sur telle et telle vidéo de chaton ou fait divers bien croustillant. Mais à la longue, certains se sont rendus compte, même avec étonnement, que le public préférait des sujets longs, des grands formats, des choses a priori moins faciles à digérer, mais où ils se rendaient compte qu'il y avait un travail derrière. Et que, tiens, ce média a fait un éclairage approfondi que je n'ai pas vu ailleurs. Donc on est en train, je pense qu'on est en train de quitter un peu cette première phase de Far West, de découverte des réseaux sociaux et du web, où le clic était roi, et où on se rend compte que chaque marque de presse doit travailler sa plus-value. Quelle est sa singularité, quelle est sa plus-value, et vous avez un nouveau média, un pure player comme ID News qui a décidé de traiter essentiellement la santé et la science. Parce qu'ils savent qu'il y a peu de professionnels sur le terrain qui traitent ça dans les médias généralistes. Voilà. C'est un pari, ils ont plus de 2700 abonnés pour l'instant. Ils espèrent en avoir 4000 à la fin de l'année, 15000 d'ici 5 ans. On verra si le pari est tenu. Mais voilà un média qui a fait un choix fort, qui a dit, voilà, ben nous, on ne parlera pas de sport, par exemple. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui taraude d'autres marques de presse, se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin du sport? Alors, pour certains, c'est oui. Pour d'autres, La question se pose. Donc travailler sa singularité, travailler le secteur sur lequel chacun peut apporter la meilleure information possible.
D'accord. On le rappelle, hein, la 16e édition de la Semaine des médias avec comme thème l'information sans frontières. C'est du 25 au 29 novembre 2019. Le site www.semainedesmedias.ch, là où on trouve le programme et également tous ces ateliers, toutes ces ressources, tous ces supports différents que vous proposez. Lorsque l'on parle d'information, doit-on également parler, se méfier ou faire la critique de l'influence Qu'est-ce qu'une influence finalement? Est-ce qu'influencer c'est bien, c'est mal? Est-ce que l'on est dans la participation à la création, au façonnement d'un esprit critique? Est-ce que l'on doit également se méfier des collusions? On a beaucoup entendu parler de grands médias. On peut reciter Facebook de nouveau, mais également des grands groupes de presse dont on sait ou on ne sait pas à qui ils appartiennent, ce qui pourrait provoquer un certain scepticisme. Quelle est votre position et quelle est vos observations par rapport à ça?
Alors, il y a plusieurs questions en
oui,
une.
Oui, pardon, c'est venu d'un bloc.
On va essayer de trier les choses. Vous parlez de collusion. Alors, récemment, Média en Suisse a mis en place une nouvelle application, une nouvelle extension qu'il est possible d'installer et qui, dans les articles consacrés à des parlementaires fédéraux, permet, en un seul clic, de voir quels sont leurs liens d'influence. À quel conseil d'administration ils appartiennent, par qui ils sont rémunérés, si c'est des assurances maladie ou d'autres acteurs importants, influents, d'autres lobbies. Et ça, c'est nouveau et c'est vraiment intéressant. Tout le monde n'est pas en mesure de le proposer, mais je pense que ce genre d'outils vont progressivement se généraliser. La transparence totale, elle n'existera jamais. Donc, je crois que c'est à chacun d'être un peu vigilant, pas seulement au moment de voter, mais au moment de lire l'avis de personne qui fait autorité, de savoir d'où il parle. Si effectivement il est membre d'un grand groupe de cliniques privées romandes, par exemple, ou il y a un certain nombre de références à connaître. Et encore une fois, ces références ne s'affichent pas automatiquement quand quelqu'un s'exprime dans forum sur la première, par exemple. Mais vous parliez aussi des influenceurs. Alors, ça renvoie à une des activités qu'on propose aux classes pour la semaine des médias, c'est j'Instagram, donc tu achètes. Et le fait est que les influenceurs deviennent quelque part des acteurs majeurs. Dans le paysage médiatique, les contrats qu'ils ont avec des marques ne sont pas toujours annoncés. Certains le font, certains ne le font pas. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les grands groupes de cosmétiques, par exemple, consacrent désormais l'essentiel de leur budget publicité à rémunérer des influenceurs. Ça ne passe plus dans les médias traditionnels, mais ce sont des contrats passés avec des influenceurs sur Instagram essentiellement.
Doit-on s'en méfier de ceci ou quelle est votre position par rapport à cela? Ou est-ce que, bon, bah voilà, tout simplement, voilà, un esprit critique formé, eh bien, de lui-même, il saura s'en éloigner.
Moi, je pense que le doute est salutaire. Se méfier de tout, ça peut conduire à une attitude un peu négative, rien n'est vrai, je ne fais confiance à rien ni personne. Non, je crois qu'il faut rester lucide et se dire que ce genre de partenariat ou de contrat peut arriver. Et ça peut devenir un jeu. D'identifier dans telle ou telle vidéo le tel ou tel partenariat ou tel objet qui a été particulièrement mis en évidence et sans doute pas par hasard.
L'information, est-ce la vérité? Est-ce une vérité ou qu'est-ce?
L'information, on le disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui se construit. J'aurais envie de dire qu'il est important pour tout un chacun, de savoir déjà différencier les faits du commentaire. Parce que le poison que je perçois de plus en plus dans certaines communications, dans certains messages, c'est le mélange des genres entre le factuel, le commentaire et le carrément propagandiste. Et je crois qu'il est important que les élèves, les étudiants de Suisse romande dans cette semaine des médias se rendent compte que il y a d'abord les faits bruts, qui a fait quoi, où, quand, comment. Et puis après, une fois qu'on a les faits, on est en présence des faits, vient la question de l'interprétation ou du lien entre des faits. Relier certains événements en se disant « Ah, mais ce fait-là, mais c'est pas un hasard si ça se produit à ce moment-là, puisque deux mois plus tôt, eh bien, tel et tel a été nommé dans tel et tel poste, donc voilà le résultat. » Ça, c'est dans un deuxième temps. Mais je crois que cette ce doute général qu'a lancé Donald Trump en parlant de fake news pour décrire les médias, en disant « Ah oui, the fake news media, they always... » je crois qu'il faut reprendre les choses à plat, lucidement, calmement, et déjà se partir de ce que les médias rapportent en termes d'informations factuelles, vérifiées et incontestables. Et après, on peut s'écharper sur l'interprétation des choses ou ce qu'on en fait.
D'accord. N'est-on pas parfois piégé par une forme d'émotion, d'émotionnalité de l'information,
toujours,
également de temporalité,
toujours,
puisque les choses doivent aller très vite.
Toujours. D'ailleurs, le meilleur conseil qu'on puisse donner aux gens à propos de ce qui circule sur les réseaux, c'est attendez 7 secondes avant de partager.
C'est pas mal, ça. Ouais.
Si les gens attendaient au moins 7 secondes, déjà, est-ce que c'est important? Est-ce que cette information justifie que je la partage à l'entier de mon réseau? Ensuite, s'il y a doute, oui, ça a l'air bien croustillant, mais est-ce que c'est vrai? Ce simple réflexe d'avoir 7 secondes de réflexion, on éviterait déjà passablement de partage foireux.
N'est-ce pas extrêmement ardu de naviguer, par exemple, sur un média comme YouTube, dont on sait que des algorithmes font que automatiquement, au bout d'un certain nombre de clics, eh bien, ce qui est proposé à la vue, ce sont des vidéos similaires, ce qui fait que l'on est, par un biais que l'on a tous, hein, on est validé dans nos pensées et que, du coup, finalement, notre esprit critique s'estompe.
Oui, alors là, vous mettez le doigt sur un aspect très problématique. Nous proposons dans la semaine des médias une activité pour les très jeunes enfants qui s'appelle YouTube et nous, et qui part du principe qu'effectivement les enfants sont confrontés très très jeunes à des contenus audiovisuels via cette plateforme, que ce soit sur smartphone, tablette ou ordinateur. Et on met l'accent en effet sur cet algorithme qui propose constamment quelque chose, donc l'enfant n'a même pas besoin de cliquer, il y aura constamment un autre contenu qui vient s'afficher. Et des recherches récentes ont montré que plus des deux tiers des contenus qu'on absorbe, nous adultes, est en fait décidé par l'algorithme de YouTube. Donc on a cette illusion d'avoir notre libre arbitre, mais en fait on est complètement piégé par la machine. Et c'est aussi le cas sur des interfaces comme Netflix. Ceux qui ont pris le pouvoir, c'est ceux qui gèrent l'interface. C'est ceux qui gèrent l'interface et ce fameux bouton, cette fameuse recommandation « Vous pourriez aussi aimer ».
Et comment est-ce qu'on se prémunit de cela? Comment est-ce qu'on sort de cela? Parce qu'effectivement, à un moment donné, on se dit « Devient-on, s'aliène-t-on finalement ?» Sans que cela passe par notre rationalité.
Oui, je crois qu'on est tous susceptibles d'être piégés par ça. Le moyen de reprendre le contrôle, c'est déjà, je pense, de définir le temps qu'on consacre aux médias, quel qu'il soit, et de s'y tenir, de mettre des limites. Il y a des outils qui existent maintenant qui permettent de bloquer, de figer les applications au bout d'un certain temps. Ça, je pense que ça peut être une parade possible. Une autre parade, c'est de varier ses loisirs, de varier la manière de gérer son temps libre. Pas oublier de voir ses amis en vrai, d'aller au cinéma, d'aller voir les dernières expos, d'aller en plein air faire du sport et de ne pas se laisser complètement happer par ce robinet à contenu qui, au final, nous laisse extrêmement insatisfaits. Je crois que les conclusions auxquelles parviennent les chercheurs, moi je les partage aussi. Si j'ai fait une overdose de Twitter, c'est un peu mon péché mignon à Twitter, je suis pas très satisfait à la fin de la journée.
D'accord, mais on y découvre également des vertus. Twitter, peut-être que ça permet ça nous oblige à synthétiser d'une certaine manière et aller au plus près, puisque le nombre de mots est limité. Voilà. Alors, peut-on dire qu'il y a quand même quelques vertus?
Oui, moi j'apprécie énormément ce réseau. C'est un peu mon agence de presse, mon fil d'actualité en continu. la plupart du temps, enfin, quand je suis intéressé, je clique sur les liens pour lire les articles avant de les partager. Et je trouve que c'est une assez bonne manière de prendre le pouls, surtout dans un réseau de gens qui partagent le même centre d'intérêt.
Alors, parlons des sources. Faut-il les multiplier ? Est-ce une des solutions, une des manières de comprendre et de nouveau se façonner un esprit critique ? Et alors, évidemment, a fortiori, qu'est-ce donc une source ?
Une source, c'est un émetteur qui est identifié. Et je me limiterai à cette définition parce que ce qui est assez frappant quand on parle d'actualité avec des jeunes, c'est que quand on leur pose la question de la source, les réponses se font assez floues. « Ah ben, je l'ai vu sur Google » ou bien « c'était sur YouTube ». Et ils ont énormément de peine à identifier l'émetteur de telle et telle information. Alors, maintenant, par rapport à la question de la diversification, la variation des sources, l'éventuelle multiplication des sources, je crois qu'il ne faut pas les multiplier à l'infini, mais il faut se fixer quand même quelques références auxquelles on revient. Des sources qu'on estime crédibles, qu'on juge crédibles parce que on a eu l'occasion d'apprécier le traitement de tel ou tel fait ou de tel événement. Et surtout, ce qui est très important, c'est conserver ce réflexe d'aller chercher soi-même l'information. Parce que sur les réseaux et sur votre téléphone portable, vous avez des alertes. Vous avez de l'information qui vous arrive sur le mode push. Ça vous est poussé vers vous, vous n'avez rien besoin de faire. Et ça, c'est le risque. Ça, c'est le piège d'être alimenté par un filet d'eau tiède dont on ne sait pas qui a ouvert le robinet. Donc, conserver le réflexe et la lucidité d'aller soi-même chercher l'information, je dirais vers au moins 2-3 sources qu'on estime fiable, ça me paraît très salutaire.
Quel est votre regard sur une plateforme comme Wikipédia, dont on peut dire qu'elle n'est pas exactement une source, mais qu'elle en propose plusieurs, hein. On voit à la fin des articles, il y a tout le temps un certain nombre d'éléments qui sont apportés, qui sont consultables. Comment voyez-vous Wikipédia ?
Alors, je le vois comme un outil perfectible, mais déjà bien rodé et qui va probablement remplacer les dictionnaires classiques. Le principe de Wikipédia, c'est que chacun peut contribuer, étoffer, amender les articles. Déjà, il y a quelques années, il a été démontré que sur certains sujets, la qualité d'une contribution Wikipédia était quasiment comparable à celle de l'Encyclopédia Britannica. Alors, encore une fois, prudence. On ne va pas généraliser, on ne va pas dire que tout ce qui sort, tout ce qui est à lire sur Wikipédia est instantanément à prendre pour argent comptant. Mais je pense que ce mode de contribution collective, où il y a forcément des gens qui ont la possibilité de rectifier le tir en temps réel, aboutit à quelque chose d'assez fiable finalement, même avec un certain nombre de réserves. Si doute il y a sur tel ou tel aspect de la biographie de quelqu'un, eh bien il vaut mieux aller chercher dans des biographies autorisées.
Mais on assiste là tout de même à une nouvelle forme d'information, pourrait-on dire, ainsi que certains médias de niche, comme on l'a dit tout à l'heure, qui s'intéressent à des sujets qui sont hors du temps peut-être et qui permettent un apaisement et une analyse peut-être plus longue qui ne dépend pas de ce dont dépendent les médias de masse, également des médias citoyens. On voit quand même toute une série de sites émerger, notamment sur Internet, effectivement, qui sont des médias participatifs, qui sont des plateformes, qui sont des médias citoyens et qui annoncent vraiment la couleur et qui tente une transparence et un regard critique.
Moi, je pense il doit y avoir sur Wikipédia une majorité de gens bien intentionnés qui ont envie de faire partager leur savoir, qui ont envie de faire découvrir des personnalités dont on ne connaît pas l'œuvre et la carrière. Il n'y a pas que ça. Et quand vous parliez d'apaisement tout à l'heure, je ne suis pas sûr que tous ceux qui contribuent au chapitre conflit israélo-palestinien soient animés des meilleures intentions.
Oui, on avait récemment d'ailleurs vu avec une bande de contributeurs wikipédiens dans des cafés virtuels où on discute de, voilà, une grande problématique concernant le langage épicène, le langage inclusif, qui avait effectivement cristallisé des positions assez radicales, je dois dire. Qu'en est-il, voilà, le big data, l'intelligence artificielle, puisqu'on a parlé des algorithmes, une des questions que j'avais, c'est effectivement, maintenant, on a une modalité également de collecte de données. On voit bien que le big data peut être extrêmement intéressant, également comme source d'une certaine manière. Alors, l'information, est-ce un nouvel enjeu stratégique de domination, de contrôle social? Pour l'influence, on en a déjà parlé. Voilà, selon vous, où en est-on? Est-ce l'information également le lieu d'une volonté de domination par certains sur d'autres?
Sans aucun doute. Poutine a dit il y a quelques années que celui qui maîtrisera à l'avenir l'intelligence artificielle, il maîtrisera le monde et il dominera. D'où l'importance de rendre les élèves, les étudiants attentifs à ces enjeux. Big data, on n'y coupera pas. Il y a quelques parades possibles pour protéger sa vie privée, ses données. Elles ne sont pas immenses, mais il faut les connaître. Et comme la majorité des métiers de demain ne sont pas connus, il est très important de préparer les jeunes à ces enjeux, à ces questions, et aux vertiges moraux et éthiques que ça ouvre. Parce que moi, je veux bien entendre parler de Smart City. Actuellement, Google fait le forcing à Toronto pour forcer la ville à lui allouer un quartier entier qui serait complètement régi par l'intelligence artificielle, et les politiques qui étaient favorables dans un premier temps sont de plus en plus réticents parce qu'ils se rendent compte qu'ils ouvrent la boîte de Pandore. Alors, on nous parle d'applications qui nous permettront de fluidifier le trafic parce qu'on aura recueilli les données, tout ça très bien, mais il n'y a pas que l'intention de faciliter la vie des gens qui est là derrière. On est vraiment en face, enfin, à la veille de créer une société qui pourrait être une société du contrôle assez terrifiante.
Un panoptique, comme on le disait à un moment donné, on est dans le panoptique de Bentham. Concernant l'image, on arrive doucement au terme de cet entretien, alors je voulais que l'on s'arrête quelque peu sur l'image, puisqu'effectivement nous à la radio, ça ne nous concerne pas beaucoup, mais la force de l'image c'est quelque chose d'extrêmement important. Pourrait-on dire que depuis longtemps cette force est mise en œuvre? On pourrait citer les films même de propagande, hein, Leni Riefenstahl versus Frank Capra, où là on a vraiment du cinéma de propagande pour préparer une opinion publique à la guerre, par exemple. Est-ce l'image quelque chose de, même un journal assez connu a comme aphorisme le poids des idées, la force des images, quelque chose comme ça? Alors est-ce l'image quelque chose de central?
Le poids des mots, le choc des photos.
Bravo, c'est ça, exactement. Alors voilà, est-ce l'image une centralité dans l'information?
Oui. Alors la question de l'image, c'est une vaste question, et dans le cadre scolaire, ça nous pose un vrai problème. Parce qu'il n'existe pas de mot en français pour qualifier l'analphabétisme de l'image. Et du coup, c'est ennuyeux parce qu'on ne peut pas mettre en évidence une lacune dont souffriraient les élèves. C'est un peu le parent pauvre, hélas, cette analyse de l'image, cette éducation à l'image, et je salue tous ceux qui s'y emploient à leur manière et qui apportent leur pierre à l'édifice. C'est une compétence clé, et c'est une compétence qui n'est pas facile à faire mûrir, à faire émerger, parce que le monde des images est en mutation constante, est en prolifération, on est face à des images mutantes maintenant, surtout avec l'arrivée des deepfakes, c'est-à-dire ces logiciels qui permettent de trafiquer des vidéos, de mettre pas seulement la voix d'une personne A sur le corps d'une personne B, mais de carrément faire croire que telle est telle. Actrice bien connue se livre à des galipettes que vous ne trouvez en général que sur des tubes spécialisés. eh bien, il devient de plus en plus difficile de faire la part des choses. Il y a aussi quelque chose qui est particulièrement préoccupant dans le registre de la presse et du journalisme, c'est l'importance de moins en moins grande du photojournalisme. Les médias ont hélas de moins en moins de possibilités, de moyens pour envoyer des photoreporters sur place, sans parler de la difficulté pour les professionnels d'accéder au lieu où il se passe réellement quelque chose. Et puis on a été tellement canardés d'images, on est sous une mitraille tellement constante que je crains bien que l'image forte n'ait plus autant d'impact qu'elle ne pouvait en avoir à certaines époques. Si vous prenez la petite fille au napalm, qui était récemment l'invité du 19h30 chez Darius Rochebain, et bien au moment où cette photo est sortie, elle a fait le tour du monde, tout le monde a dû se positionner par rapport à ça, tout le monde, j'entends les chefs d'État qui étaient impliqués dans le conflit vietnamien. Et là, on peut réellement parler d'une photo qui fait date. Les photos qui fait date, c'est une des autres activités qu'on propose pendant cette semaine des médias à l'école. Alors, le point levé des athlètes noirs américains aux Jeux de Mexico, des événements comme ça, une photo comme ça qui bouleverse et qui fait date. Je me pose la question si aujourd'hui, en 2019, on est encore capable d'en produire.
Effectivement. Là, on le rappelle, www.semainedesmedias.ch. Donc, le thème, c'est l'information sans frontières avec un point d'interrogation. C'est la 16e édition. C'est du 25 au 29 novembre 2019. Alors, selon vous, peut-on encore s'informer? Peut-on encore savoir s'informer? On parle effectivement des deepfakes. On a de plus en plus de mal à détecter ces pièges, d'une certaine manière, ces zones d'influence. Alors, vers quoi allons-nous? Selon vous, est-ce qu'on va arriver à faire la critique de tout cela et à s'emparer d'un esprit critique plutôt que de se laisser un petit peu manipuler d'une certaine manière avec ces nouveaux outils extrêmement efficaces dont on vient de parler, l'intelligence artificielle, etc.
Une dérive que je déplore et que je constate, c'est que comme les smartphones coûtent de plus en plus cher, les gens ont tendance à penser que le contenu vient avec. C'est normal que le contenu de qualité vienne avec. Et c'est une illusion. Et les abonnements à la téléphonie mobile et le prix des appareils a constamment rogné sur le budget que les ménages consacraient autrefois aux journaux et à l'information. Alors, c'est un fait. Je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Maintenant, il y a quand même lieu de s'alarmer de ce qui s'est passé aux Philippines avec l'arrivée au pouvoir de Rodrigo Duterte. Il y a lieu de s'inquiéter de ce qui s'est passé au Brésil avec l'arrivée de Bolsonaro. On constate quand même que dans des pays qui étaient peu dotés en médias de référence de qualité, les réseaux sociaux ont pris toute la place et ont colporté des informations ou des fakes qui ont eu une influence déterminante lors des votes. J'espère que ça n'arrivera pas chez nous et je pense qu'il est très important que chacun garde la lucidité et le recul de se dire voilà, qu'est-ce qu'on est en train de me dire, qu'est-ce qu'on est en train de me vendre. Par exemple, vous avez des nouvelles qui apparaissent sensationnelles ou alors vous avez des scoops tout à coup qui défraient la chronique. Posez-vous toujours la question, à qui profite ? À qui profite ce scoop? Parce que souvent, les lanceurs d'alerte, ils ont un agenda, ils ont une intention derrière. C'est pas toujours le journaliste qui, à la suite d'un travail d'enquête très approfondi, a trouvé l'information sensationnelle. Il y a des documents qui sont remis avec une intention parfois
tout à fait de nuire, qui sait.
Donc, autant du côté des gens de presse qu'autant du côté du grand public, il y a lieu de se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qu'on essaye de me vendre? Si la majorité des gens, dans leur butinage quotidien de divertissement, d'actualité, tout ça, se disaient « qu'est-ce qu'on est en train de me vendre là ?» On aurait déjà fait un grand pas. Et je pense que la semaine des médias à l'école y contribue et j'espère qu'elle y contribuera encore longtemps.
Très bien, très bien. J'ai encore deux petites questions et puis on s'arrêtera là. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations que vous nous délivrez. Alors, peut-on dire, pour résumer d'une certaine manière, parmi les mots-clés qu'il faut du travail, qu'il faut prendre un petit peu de temps. On l'a dit, il faut un petit peu travailler, il faut un peu vérifier, il faut se poser des questions, prendre un peu de temps. Le fact-checking, c'est quelque chose également que vous encouragez peut-être ?
Oui, absolument. Et on fournit aux classes, aux enseignants, des références qu'ils peuvent donner, qu'ils peuvent tester, des références dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais peut-être possible d'en mentionner déjà quelques-unes.
Oui, tout à fait.
Eh bien, il y a par exemple les observateurs sur le site de France 24 qui passent à la moulinette un certain nombre d'informations qui ont défrayé la chronique ou qui ont été virales et qui remet les choses en ordre. Il y a AFP Factuel qui se livre au même travail de décodage. Il y a des dossiers extrêmement bien faits sur le site RTS Découverte. Et puis il y a un site canadien que je recommande aussi qui s'appelle 30secondes.org. C'est la Fédération professionnelle des journalistes du Québec qui a mis au point un certain nombre de vidéos, de réflexes pour aider le grand public à faire le tri.
Alors voilà, c'était le sens de la dernière question. Avez-vous des conseils pour mieux s'informer et des références utiles ? Ça, ce sont les références majeures que vous utilisez vous-même ?
Tout à fait. Et puis je citerai peut-être encore deux outils qu'il est possible d'installer comme extension sur son navigateur, hein, navigateur Chrome ou Firefox. C'est l'outil TinEye qui permet de faire de la recherche inversée de photos. C'est très utile pour savoir si une photo qu'on nous présente illustrant par exemple un ouragan ou un lynchage dans la rue, si elle n'a pas déjà été publiée dans un autre contexte il y a quelques années. Et puis il existe également, alors ça c'est encore mieux, un outil qui permet de tester la fiabilité des vidéos qui s'appelle InVid et qui permet de déterminer si une vidéo n'a pas été sortie de son contexte pour illustrer autre chose.
Et alors pour en terminer, selon vous, vers quoi allons-nous ? On avait l'impression quand même que le constat, c'est de dire qu'on n'échappera pas à une certaine problématique, en tout cas. Mais alors, vers quoi allons-nous et comment y allons-nous ? Quels défis nous attendent ?
Vers quoi allons-nous ? Je crains que nous n'allions vers une société à deux vitesses, avec une élite qui a les moyens, la culture et l'envie de s'informer à des sources de qualité, et une grande masse qui rejoint ce que certains appellent les indigents médiatiques, c'est-à-dire ceux qui consomment de l'information occasionnellement ou de manière très dissipée et qui, du coup, risquent davantage au niveau de ses choix et de ses décisions d'être bernés.
Et les défis, selon vous, les défis qui nous attendent, quels sont-ils ? D'arriver tout de même à conserver cet esprit critique dont on a parlé tout au long de cet entretien.
Le défi, il est démocratique. En Suisse, nous sommes une nation où les cantons ont voulu former une confédération. On doit faire chacun des pas en direction de l'autre. On ne doit pas être dans l'opposition. On doit être plutôt dans la recherche du consensus. Ce consensus passe par des décisions qui sont votées démocratiquement. On est appelé à s'exprimer plusieurs fois par année. Pour pouvoir s'exprimer valablement, il faut être informé. Il faut connaître les enjeux. Il faut connaître le contexte et les conséquences des choix que nous faisons. Du coup, le grand défi, il est là.
D'accord. Et puis, pour vous, y aurait-il une photo, puisqu'on parlait de l'analphabétisme de l'image, y a-t-il une photo comme ça qui représente ce combat pour l'information crédible, intéressante, pertinente, critique ?
Il me vient en tête une couverture récente du magazine Vigous, le magazine satirique. C'était un dessin à prendre au deuxième degré. On y voyait Greta Thunberg attachée à un arbre et le titre disait « Greta Thunberg, brûlons-la tant qu'il reste encore des arbres ». Et ça renvoyait bien sûr à cette agression envers les écolos des années 80 où des autocollants avaient été publiés avec le slogan « Pendons les écolos tant qu'il y a encore des arbres ». Eh bien, croyez-le ou non, mais sur la page Facebook de Vigous, la majorité des messages étaient favorables et des gens disaient « jamais les allumettes ». Donc, c'était le signe que les gens n'avaient absolument pas perçu l'intention satirique, n'avaient absolument pas perçu le deuxième degré.
Un aveuglement, comment est-ce qu'on peut expliquer ce type d'aveuglement? On ne sait pas. Ouais. Christian Georges, merci beaucoup. Vous êtes collaborateur scientifique pour la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, la CIIP. Le site internet, c'est www.e-media.ch.
Oui.
L'actualité, c'est la 16e édition de la Semaine des médias qui ira donc du 25 au 29 novembre. L'information sans frontières, point d'interrogation, ça c'est la thématique de la semaine. Le site internet dédié est le suivant, www.semainedesmedias.ch.
Écoutez, on a eu une discussion très intéressante et beaucoup plus approfondie que lors de la plupart des interventions que j'ai pu faire sur des médias de Suisse romande ces 15 dernières années. Donc je vous suis très reconnaissant.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.